C'est Muteki de 9h à 10h sur Lazio Cagneux 102.2 FM.
Éric Chevalier, bonjour et enchanté.
Bonjour, enchanté.
Donc Éric, on est ici à Lyon, tu es venu de Sakai pour présenter des couteaux, les couteaux de Sakai, les célèbres couteaux de Sakai. Il y a un an, en parallèle à cet événement, il y a aussi une cérémonie du thé qui se déroule en ce moment, il y a eu des dégustations, etc. C'est carrément un événement global autour de la cuisine. Mais c'est surtout les couteaux de Sakai qui sont les stars du show, si j'ose dire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le poids qu'a la ville de Sakai dans la coutellerie au Japon ?
Alors oui, le poids de la ville de Sakai dans sa globalité, c'est pour ça qu'il y avait aussi des démonstrations de thé, parce que la cérémonie du thé qui est célèbre, souvent vue à Kyoto, mais en fait elle est née en fait à Sakai. Il y a de la sauce soja à Sakai, il y a plein de produits traditionnels. C'est une ville qui a 1600 ans d'histoire, et il y a aussi notamment les bons couteaux. Et en fait, pourquoi à Sakai? Parce que justement on avait des tombes d'empereurs, et donc il fallait forger des outils pour faire cette tombe d'empereur. Et donc depuis ce temps-là, donc depuis 1600 ans, on a des bons forgerons qui aujourd'hui maintenant sont célèbres pour leurs couteaux.
Et au milieu de tout ça, il y a aussi, il y a aussi toi. Donc tu es un Français qui a appris la coutellerie à Sakai. Et j'ai presque envie de dire, c'est là une question qu'on pose assez souvent aux Français qui partent au Japon, mais qu'est-ce qui t'a pris?
Je sais pas, non. J'étudiais le japonais à l'INALCO, donc à Paris, l'Institut des langues et littératures orientales. Et j'apprenais le japonais, la culture du Japon, et j'ai eu envie forcément, donc à force de l'étudier dans les livres, de le voir en vrai, le Japon. Et donc c'est pour ça que je suis parti à Sakai justement, parce qu'il y a ces tombes d'empereurs, et donc pour moi, au niveau historique, apprendre comment le pays s'est formé, c'était voir où et comment le pays s'était formé, c'était pour moi primordial. Donc c'est comme ça, en fait, de simple touriste. Hein, je suis venu pour un an au Japon tout au début, donc c'était un tourisme, mais c'était un visa vacances-travail, donc c'était pour plus que du tourisme. Et j'y suis allé, à Sakai, et j'ai rencontré un forgeron qui est 22e génération, soit donc la plus vieille forge du Japon, pour les couteaux notamment, et depuis le 15e siècle, fin du 15e siècle. Et donc je l'ai rencontré, on a bu du saké, il était fait, et voilà, il m'a demandé de rester l'aider un petit peu, puis voilà, de quelques jours seulement de travail avec lui, je suis resté 5 ans chez lui, et maintenant ça fait 15 ans que je suis dans cette ville-là.
C'est pas du tout le métier qu'on s'attend à faire quand on apprend le japonais, qu'on est fan du Japon aussi forcément, mais c'est pas le genre de métier qu'on s'attend à faire une fois arrivé sur place, non ?
Généralement, oui, c'est vrai que c'est soit on part avec une entreprise française, on est expatrié, donc on va être dans un milieu français pour les entreprises donc francophones ou françaises, ou alors oui, les gens vont juste vouloir aller au Japon et peut-être y travailler sans forcément avoir de but. Moi, j'avais pas de but non plus, mais il faut savoir en fait que ma famille est dans la forge, sauf mon père, mais toute ma famille était dans la forge en Bretagne, dans les forges de Pimpon qui sont assez connues, et enfin qui sont plus en activité malheureusement aujourd'hui. Et donc c'est aussi ça, j'avais déjà moi l'amour en fait du travail manuel sans l'avoir expérimenté moi-même et sans que mon père le fasse non plus, donc j'ai pas eu d'échange tout de suite direct avec mon père notamment là-dessus, mais dans mon sang je sentais que oui, la forge c'était quelque chose de sympa, et donc finalement c'est un peu l'occasion qui fait le larron, comme on dit. Je suis arrivé là, l'endroit était beau, traditionnel. Je me suis dit que même un mois, même 6 mois, peu importe le temps que je resterai là-bas, du moment que je tiens, j'aurai une expérience phénoménale et unique. Et je suis resté, et ça s'est confirmé, c'était unique, et ça m'a aidé à me construire pour aujourd'hui et pour mon avenir.
L'apprentissage sur place, ça ressemble à quoi ?
Ah oui, alors là, ouais, l'apprentissage, ouais, c'est un peu compliqué. Alors l'apprentissage, c'est un petit peu comme les compagnons du devoir, hein, sauf que y a peut-être sûrement quelques petites différences. Moi, en quelque sorte, donc c'était 7h du matin à l'atelier. De 7h du matin jusqu'à 18h, on va faire les tâches pour aider le maître. Donc pour on va dire, lui éviter de faire tout ce qui est à côté. C'est-à-dire que lui, il doit se concentrer seulement sur la forge. Donc je coupais du charbon, je faisais le ménage, même si c'était propre tout le temps, parce que je faisais ça tous les jours forcément. Nettoyer les toilettes, faire à manger, faire la lessive, faire la vaisselle, faire ses courses. Donc toutes les, on va dire, les basses besognes, hein, entre guillemets. Hein, les basses besognes. Et donc, mais pendant que je circulais comme ça dans l'atelier pour faire tout ça, je le voyais et je l'entendais forger. C'est ce qui est le plus important, c'est que je l'entendais, donc j'entendais son marteau, son rythme. Et le soir, à partir de 18h jusqu'à 22-23h, enfin jusqu'à ce qu'on soit vraiment trop fatigué, là on s'entraîne soi-même. C'est-à-dire que le maître, il va partir manger chez lui, il rentre chez lui, et donc là on prend un morceau de fer, on s'entraîne un peu, et c'est pour ça qu'en fait que c'est très très lent. Et ensuite, il y a aussi qu'un seul jour de congé par mois. Donc c'est assez long, 7h-23h avec un seul jour de congé. Et le salaire, c'était l'équivalent à l'époque de, peut-être aujourd'hui, ouais, ça ferait 60€, 70€ par mois. Vu que le yen est bas aujourd'hui, ça serait 60€ à peu près par mois. Donc il me louait un petit appartement où il n'y avait pas de chauffage, pas de climatisation, alors que les climats sont très durs au Japon. Il n'y avait pas de baignoire, il n'y avait pas de salle de bain, il n'y avait pas d'eau chaude. Donc c'était vraiment très spartiate. Mais ça m'a permis de me forger moi-même, en fait. C'est un peu exprès, en fait. C'est pour forger son corps aussi et son esprit, être dans des conditions un petit peu dures pour pouvoir résister au travail.
Ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a quand même pas non plus de petits moments de briefing, en quelque sorte. Genre, approche par là, tiens, voilà, ça, c'est ça, et puis ce soir, tu t'entraîneras, puis voilà, quoi.
Non, même rien,
pas,
rien.
Même pas d'exercice, tu sais, genre, pour demain, je veux que tu me fasses ça, tu vois, même pas.
Pas pendant les 3 premières années. Par exemple, moi-même d'ailleurs, avant les 6 premiers mois, quand il était 17h, je rentrais chez moi. Et c'est ma femme qui est japonaise, qui est couturière kimono, elle travaille pour le théâtre impérial à Tokyo, et elle m'a expliqué, non, c'est à partir du soir, c'est à partir de la fin du travail que tu travailles, que tu commences. Donc là, j'ai commencé à apprendre ça. Donc en fait, comme c'est du non-dit, jamais de communication, on ne sait pas. Et une fois qu'on a fait généralement 3 ans comme ça, ensuite, il nous dit, tiens, bah, cette barre-là, un gros morceau de fer, tu vas l'allonger, tu vas passer une semaine dessus, il faut que tu me la fasses à tant de millimètres, que ça soit parfait. Et c'est à partir de 3 ans à peu près qu'on commence à avoir quelques instructions.
Et là, ça fait combien de temps que tu es au Japon ?
Là, ça va faire 15 ans cette année, ouais, ça fait 15 ans.
15 ans, et donc désormais, toi, tu travailles en tant que forgeron. L'apprentissage, c'est terminé, tu es chez les grands, quoi, si j'ose dire.
Enfin, ouais, parce qu'en fait, quand on finit l'apprentissage, on a fait 5 ans, mais en fait, on sait quasiment rien, parce que pendant ces 5 ans d'apprentissage, on n'a pas le droit, en fait, de faire affûter nos couteaux, on n'a pas le droit de faire la finition. Ça, c'est réservé qu'au maître. Donc, en fait, on accumule les tas de lames qui sont bonnes ou mauvaises. Et c'est après ces 5 ans, on va se réentraîner tout seul avec un affûteur. Parce qu'en fait, la fabrication est partagée entre le forgeron, l'affûteur, fabricant de manches, tout ça. Et donc, pendant 3 ans, après l'apprentissage, on vient échanger avec un apprenti affûteur qui, lui, a fait ses classes aussi. Et donc, on se travaille comme ça ensemble. Donc, il faut beaucoup de temps, en fait. Maintenant, ouais, je suis établi, j'ai ma forge. Je travaille pour la ville de Sakai aussi, donc ça va.
Et on disait aussi, par rapport aux autres forgerons, en tout cas les forgerons des autres pays, les Japonais, eux, ne se concentrent que sur la lame. Il n'y a pas le manche, il n'y a pas de réalisation de l'objet en entier. Vous, il faut que simplement la partie de l'objet qui vous incombe soit parfaite, c'est ça ?
Voilà, moi je travaille au feu, donc là c'est spécifique à la ville de Sakai, parce que c'est la ville qui fait les couteaux traditionnels. Il y a d'autres villes au Japon qui font des couteaux plus pour l'Occident, en fait, des formes occidentales, nous on fait vraiment des formes japonaises. Et oui, en effet, moi mon travail c'est assembler donc une partie dure, une partie tendre, donc du fer, de l'acier ensemble, de frapper, de faire la forme de la lame, et ensuite de lui donner sa dureté, lui donner sa flexibilité, des choses comme ça. Ça c'est mon boulot, et ensuite une fois que la lame allait normalement bonne, on l'envoie, on prend le vélo et on l'emmène à l'affûteur qui est à côté, ouais, qui est à 2-3 rues pas loin.
Ouais. Ok. Toi, tu continues quand même à t'intéresser à ce que les autres font, à ce que les autres pratiques peuvent t'enseigner, toi ?
Alors oui, moi je regarde beaucoup, mais surtout par curiosité, parce que ça m'est quasiment pas utile dans mon travail, vu que nous c'est de la forge traditionnelle et finalement on doit pas changer la règle. Moi je travaille tel type d'acier, c'est le même acier depuis des décennies que tout le monde utilise dans la ville, c'est telle forme, ça change quasiment pas, vraiment seulement des petites choses, mais ça change quasiment pas. Donc là, ce que je vais regarder, c'est juste parce que comme moi j'ai la chance d'être le seul au Japon à pas travailler, j'utilise pas d'électricité quasiment, je fais vraiment tout à la main, du charbon vraiment à l'ancienne, comme il y a 200 ans. Donc comme je fais pas beaucoup de lames, je peux avoir aussi le temps, parfois je me consacre un petit peu de temps juste pour m'amuser, parce que c'est important de s'amuser aussi, ce que les Japonais n'ont pas toujours, hein, quand ils sont en forge. Moi je suis français, j'aime bien avoir un peu de fantaisie. Donc je regarde les lames d'autres couteliers, des Français notamment, des Américains, je regarde un peu de tout pour me faire rêver, tout simplement. Ouais.
Toi, justement, tu as eu des... Alors ça, c'est aussi un truc qu'on disait en off, il y a eu quelques références aussi, je veux dire, ne serait-ce que pour avoir le bon geste, des choses comme ça. Finalement, Internet, ça a sacrément aidé. Enfin, ouais. C'est assez frappant pour ceux qui connaissent pas le côté le métier de forgeron, puisqu'on a toujours le vieux cliché autour de ça, mais sur Internet, il y a des gens qui donnent des tutos, qui donnent des leçons, ouais. Qui montrent leur travail. Explique-nous un petit peu. Ouais.
C'est super important Internet, parce que aujourd'hui, bon, il y a moins de supports livres aussi. Les livres en ouvrage, je parle japonais, je peux le lire et l'écrire, mais je peux pas le lire parfaitement non plus. C'est très très compliqué. Donc des ouvrages en japonais. Sur la forge japonaise, je ne saurais pas les lire. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire que je pense qu'en un an, aujourd'hui, avec Internet, et bien avec l'intelligence artificielle, ça va aller encore beaucoup plus vite, à mon avis. Ça va déjà très, très, très vite. En un an, je peux faire peut-être 10 ans d'apprentissage. Parce qu'on voit tout sur Internet, les tutos, comme on disait. Moi, je regardais un forgeron, je ne vais pas le citer parce qu'il ne veut plus du tout qu'on parle de forge, mais c'est un forgeron français qui a appris au Vietnam, qui est revenu en France, il faisait des tutoriels, voilà, lui pareil. Et donc, je voyais son évolution. Et donc le fait de voir son évolution, je me disais que moi aussi c'était possible de faire des choses que j'avais pas appris forcément. Donc nous au Japon, on est tout le temps dans un seul tunnel où on a que notre maître c'est sa façon de faire, même qu'il se trompe ou pas, peu importe, on n'a pas besoin de réfléchir, on fait ça. Mais le fait de voir d'autres choses, en fait, ça permet de s'aérer un peu l'esprit. Et en effet, oui, de pouvoir copier. Bon, moi, je peux pas copier parce que justement, je dois toujours faire la même chose. Mais là, on avait là l'événement, c'est l'atelier sous l'éclipse. C'est rigolo parce que moi, je voyais sur les forums ces lames que je trouvais très très jolies. Et lui, il me voyait. Et donc, lui, il me voyait. Ah, j'avais envie d'aller te voir, Eric. Alors que c'est moi qui ai peut-être plus de respect finalement pour son travail que lui n'en a pour moi. Enfin, voilà. Et donc, c'est rigolo en fait ces échanges. C'est que je suis au Japon dans un monde qui est très spécialisé dans les couteaux, très connu pour ça. Et finalement, moi, je vais regarder des forgerons français.
C'est un grand paradoxe. Quelques questions également sur la vie à Sakai. C'est pas du tout la vie à Tokyo, c'est même pas forcément la vie à Osaka. Explique-nous à quoi ça ressemble, parce que c'est dans le coin de Osaka, on n'est pas dans le centre-ville.
Alors, on n'est pas dans le centre-ville. Alors, Sakai, c'est quand même, c'est pas la province non plus, c'est une ville de, autour de 820 ou 830 000 habitants. Donc, pour la France, ça serait quand même quelque chose d'énorme. Et moi, je suis conseiller de cette ville quand même. qui est énorme quand même. Hein. Mais en fait, ouais, pour le Japon, c'est une petite. C'est pas province-province, mais ça reste quand même provincial. Donc, c'est la plus grande ville de la préfecture d'Osaka. On est à 30 minutes de l'aéroport international d'Osaka, à 20 minutes du centre d'Osaka. Mais en fait, on a la chance d'être séparé par un fleuve qui s'appelle le fleuve Yamato. Yamato, c'est le nom du Japon avant que le Japon s'appelle le Japon. Et en fait, c'est là où est né vraiment pas le peuple japonais, parce qu'il y a plusieurs peuples normalement, hein. Mais c'est là vraiment la culture japonaise qu'on connaît aujourd'hui s'est développée. Donc Sakai, c'est vrai que c'est une ville qui est très artisanale. Comme il y avait beaucoup de métallurgie, il y avait beaucoup de fabricants et d'usines d'armes aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est aussi une ville qui a été complètement bombardée, complètement rasée 5 fois pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est pas une ville où on se dit comme à Kyoto, je vais marcher, comme à Paris, voilà, je vais voir les vieux bâtiments. On en a très peu, sauf ma forge qui est très vieille, qui a 200 ans, qui a résisté. Mais sinon, voilà, c'est très très rare à Sakai de voir des vieux bâtiments. Mais il y a des très grandes avenues, donc c'est une ville qui est tout de suite très apaisante. Parce qu'il n'y a pas le bruit qu'on peut avoir à Osaka avec des gens qui veulent attirer dans les restaurants, des lumières partout. Ça, il n'y a pas ça. Donc, on a la chance d'être dans une ville calme, un peu provinciale, tout en ayant la facilité d'avoir un aéroport international, plein de gares. On est à 1 heure de Nara, on est à 1 heure et demie de Kyoto. On est vraiment très proche de tout. Et c'est une ville qui est très facile à vivre. Enfin, moi, j'aime bien. Ouais.
Tu me disais aussi, il y a aussi quelques tombes impériales. C'est quoi, c'est les Kofun, c'est les fameuses tombes en forme de serrure?
Exactement, ouais, les Kofun, bien retenu. Donc ouais, les Kofun, ouais, c'est des tombes qui ont 1600 ans, c'est la plus grande tombe du monde, c'est la tombe de l'empereur Nintoku. D'ailleurs,
et c'est à Sakai.
C'est à Sakai. C'est à Sakai, les plus grandes tombes du monde sont à Sakai, donc pas en hauteur, hein. Ça, je crois que c'est les pyramides, hein. Mais c'est en largeur. La plus grande tombe, là, moi j'aime bien faire un peu de jogging autour, c'est 4,2 km juste du nord au sud, donc c'est quand même assez gros, hein. Et aujourd'hui, avant, on peut pas y rentrer dedans parce que c'est un endroit impérial, et on pouvait la voir que de l'entrée, sauf que là depuis quelques mois il y a une montgolfière dans un grand parc qui est juste en face, et de la montgolfière, donc on peut voir vraiment, c'est unique, on peut voir la tombe du haut, donc c'est quelque chose qui était interdit à l'époque, et maintenant on peut le faire, donc ça c'est pas mal.
Voilà, pour lutter contre le surtourisme au Japon, justement. Toi, tu ne le vois pas forcément ce surtourisme-là, non?
Moi, j'étais guide, comme j'avais pas d'argent en tant qu'apprenti, moi, ma journée de repos, je faisais guide, je faisais prof de français, donc j'ai fait Kyoto, j'ai fait Nara, j'ai fait toutes les grandes destinations japonaises. Moi, j'ai eu la chance, quand je le faisais il y a entre 10 et 14 ans, quand j'étais guide, j'avais pas toute cette affluence, il y en avait déjà. Et aujourd'hui, ouais, c'est horrible. Moi, je refuse de faire les visites à Kyoto, justement, parce qu'il y a trop de monde dans les bus. Les gens donc, sont un petit peu comme à Paris. Comme il y a toujours de l'argent, toujours des gens, ils ont moins besoin d'être attentionnés avec les visiteurs. Ce qu'on a moins en province. En province, justement, il y a moins de visiteurs, donc on est toujours plus souriant, plus accueillant avec eux. Ça ne veut pas dire qu'à Paris, ils font la tronche. Moi, je suis de Paris et je souris tout le temps. Mais voilà, c'est vraiment des différences. Et ça caille, oui, c'est un endroit où... Il y a beaucoup de traditions, c'est pas loin des grands endroits et il n'y a pas de touristes. Donc, comme partout au Japon, dès qu'on sort d'une grosse ville, de toute manière, on se fait plaisir. Peu importe ce que vous allez faire, vous prenez un sentier juste à côté, même à Kyoto. Il y a une rue bondée, vous prenez la rue parallèle à côté, ça sera la même chose en plus calme.
Je ne peux que confirmer. Tu m'avais laissé entendre que tu avais tu étais conseiller de la ville de Sakai ou ambassadeur. Explique-nous un petit peu, parce que du coup, on parlait de passage à la télé une fois par mois. Alors explique-nous un petit peu, tu es vraiment intégré maintenant à la vie locale, en tout cas à la promotion de la vie locale.
Je suis intégré, mais en fait, quand on est français, blanc, yeux bleus, donc le stéréotype un petit peu, je suis pas blond, alors ça, j'aurais coché toutes les cases. Mais bon, quand on arrive comme ça et qu'on est dans un monde très traditionnel, tout de suite, les télés, les médias s'intéressent à nous. Qu'est-ce qu'il vient faire chez nous, dans un endroit, une forge qui a 22 générations, c'est quoi ce gars-là? Forcément, comme là, la radio, pareil, c'est des profils qui sont atypiques, qui attirent. Donc tout de suite, oui, ça fait vraiment 15 ans, depuis le premier mois de mon apprentissage que je passais dans les journaux, et c'est boule de neige, voilà. Et donc c'est comme ça depuis 15 ans, mais...
Puis t'es arrivé après le séisme.
Je suis arrivé après le séisme. Moi, j'ai fait le bon timing, j'ai failli venir au moment du séisme, et mes collègues et mes camarades avec qui on devait aller au Japon, ils ont annulé. Donc je me suis dit, j'ai pas les finances pour y aller tout seul. Donc j'ai attendu un an. Et j'ai eu la chance que cette année-là, bah, tout le monde partait du Japon. Fukushima, les gens avaient peur. Peur, oui ou pas. Enfin, bon, peu importe, à Osaka, on est loin de Fukushima. Hein. Je crois que c'est 800 km, hein, donc de toute manière. Et ce qui n'est... de toute façon, il n'y a plus aucune crainte aujourd'hui. Et oui, donc quand je suis arrivé, c'était un Japon où y avait plus les étrangers partaient. Et donc, ils voyaient un Français débarquer. Donc forcément, oui, ils étaient contents de m'accueillir. Puis je suis intégré complètement maintenant, ouais. Je suis assimilé, bah, je suis en kimono, samouraï, c'est un kimono léger pour le travail, voilà. Avant j'étais en geta, les chaussures japonaises, maintenant j'ai 36 ans, donc bah, je préfère des baskets, c'est mieux.
Exactement. Ouais. Mais justement, est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui veulent s'établir au Japon? Il y en a encore beaucoup, je veux dire. Il y en a énormément, pas simplement pour visiter le pays, mais il y en a qui vont un peu la bouche en cœur, mais d'autres qui ont peut-être la volonté, mais qui savent pas par où commencer. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil?
Alors, c'est vrai que je reçois énormément de messages, beaucoup de personnes qui me demandent des conseils pour s'installer. Et chaque fois, ma première question, c'est « Est-ce que tu parles japonais ?» Et pas besoin d'être bilingue. Moi, quand je suis arrivé au Japon, j'étais pas bilingue, mais j'ai fait l'INALCO pendant 2 ans, donc une école spécialisée dans la langue japonaise. Il faut se dire que quand on va au Japon, c'est comme si on allait en France. Hein. Si on parle pas français en France, ça va peut-être pour le touriste 2 minutes, mais même en Allemagne ou quoi que ce soit. Hein. Là, j'étais dans un beau petit restaurant lyonnais, ils parlent pas anglais, forcément. Hein, voilà. En Allemagne, pareil, un bon petit resto, ils parlaient que teuton, quoi. Ils parlaient que allemand. Donc, quand on va au Japon, si on fait que Tokyo et que les endroits qui parlent anglais, déjà, on va pas vraiment être au Japon. On va être dans une zone un peu internationale. Donc, impératif, c'est prendre des cours de japonais. Aller dans une école, donc faites bosser ceux qui savent enseigner. C'est très important. Et ce serait important pour toi, parce que si on arrive au Japon sans parler la langue, on comprendra rien. Et c'est un irrespect, mais total. Donc déjà, la personne qui me dit « je vais au Japon pour y vivre » et que je ne parle pas la langue, moi, je serais le premier à le renier et je serais le premier à ne pas l'aider. Moi, je déteste les gens qui ne font pas des efforts. Et après, donc apprendre la langue, c'est bien. Pas besoin d'être bilingue, ça, c'est clair. Mais il faut savoir se présenter, il faut savoir dire des petites choses. Il ne faut pas être parfait. Les Japonais sont très gentils, donc si on se trompe, ils vont nous corriger. Mais il faut faire voir qu'on fait des efforts. Et après, la culture,
sur place, par exemple.
Et apprendre sur place. Voilà. Venir, apprendre sur place, mais c'est bien d'avoir une base quand même. Venir juste se dire, il y a une école qui donne un visa, je vais y aller, je vais pouvoir y vivre. On va rester un an et on va se faire jeter, quoi. Parce que surtout aujourd'hui, il y a eu un moment où le Japon était très ouvert. Il y a eu tellement d'abus qu'aujourd'hui, on se resserre beaucoup. Et donc, c'est une formule qui n'existera plus, bien sûr, aujourd'hui. L'étranger qui vient au Japon pour s'installer, qu'en parlant que anglais, je pense que ça va être de plus en plus compliqué. Et surtout, après, si on va prendre la culture, tout simplement, se dire qu'on est dans un pays étranger, et quand on aime l'étranger, quand on aime l'extérieur, il faut faire comme à l'extérieur. Moi, si je vais en Italie, bon, enfin, c'est quasiment proche de chez nous, mais si je vais en Afrique, mon frère, il va tout le temps au Sénégal, bon, bah, lui, il a appris la culture, il a appris la langue locale, et puis, il n'est pas bilingue, mais il le fait. On va en Russie, c'est pareil, partout. Donc, normalement, c'est obligatoire, normalement, dans un pays qu'on y va. Donc voilà, mon conseil, apprenez le japonais, vous avez des bonnes écoles, je crois qu'il y a des bonnes écoles à Lyon aussi. Et on en entend, il y en a beaucoup, hein, des gens qui ont étudié à Lyon et qui viennent vivre au Japon, comme il y en a qui viennent de Paris, on en entend beaucoup. Bretagne, Paris, Japon, c'est les trois grands pôles généralement avec des étudiants qui viennent.
Bretagne aussi.
Bretagne, c'est l'université de Rennes, il me semble, okay. Qui a beaucoup d'échanges avec le Japon, beaucoup de japonais. Après, peu importe, prenez aussi les forces que vous avez dans votre terroir. Si vous avez un terroir, vous avez du vin, du champagne, des choses comme ça, ben c'est des forces françaises qui sont... c'est la priorité, parce que si vous allez au Japon et que vous êtes inutile, que vous parliez la langue et que vous connaissiez la culture, faut avoir une utilité pour un pays. Si vous êtes inutile, bah, ça sert à rien, vous allez être triste. Prenez votre force en France et emmenez-la au Japon et vous allez être sur un paradis, un petit nuage.
Et s'accrocher.
Ramener un peu de France, l'embellir, le faire voir aux Japonais et être utile aux Japonais et s'accrocher. Abandonnez pas, surtout n'abandonnez pas. Après la première année, même si vous arrive des crasses, c'est normal. Moi, voilà, on en bave. J'en ai bavé pendant 5 ans pour être aujourd'hui très heureux. Donc 5 ans, c'est long quand même. Hein. Mais donc si vous en bavez juste 1 ou 2 ans, ça sera suffisant et les Japonais seront très contents après. C'est souvent d'ailleurs une étape, ils le font souvent exprès d'être pas méchant, mais de vous faire faire des choses de basse besogne, exprès pour tester votre motivation. Et ça va pas durer. Ça va basculer sur quelque chose de très très bon et après très convivial.
Merci beaucoup.
Merci, bon courage à tout le monde.
Muteki wa Radio Kanyu FM 102.2 9時から10時までお送りします。